Bonjour et bienvenue sur Radio Panique 105.4 FM. Vous écoutez Elles en parlent encore, une émission de Vie féminine Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons développer le thème, le statut des femmes et le féminisme à travers différentes cultures. Grâce à ce tour d'horizon, nous allons tenter de mieux connaître et comprendre comment des femmes issues de différentes cultures agissent dans la société, tant au sein de leur sphère privée que professionnelle, et quels sont leurs engagements et leurs réactions une fois confrontées à des cultures autres que la leur. Pour ce faire, nous n'allons pas partir d'une étude scientifique, mais du regard de plusieurs membres de l'équipe d'Elles en parlent encore. Je vais d'ailleurs, avant d'entamer le premier sujet, leur laisser la parole.
Bon, moi je m'appelle Christiane. Ça fait 6 années que je suis en Belgique, mais je viens d'Allemagne d'origine.
Oui.
Et voilà, je travaille et j'habite ici depuis 6 années. Voilà.
D'accord. Merci à toi d'être avec nous.
Et moi, je m'appelle Anya, je viens de Pologne, je suis étudiante d'Erasmus de Wrocław. Je suis ici 5 mois, c'est tout.
Et donc, nous avons aussi avec nous Martha, qui va nous avoir un rôle un peu d'interprète par rapport à ce que Anya va nous raconter, et Hélène aussi, qui est présente avec nous. Donc, on va entamer...
Pardon. Moi, j'aurais laissé Martha se présenter.
Ah oui.
Martha, toi, tu fais partie de l'équipe, d'Alzheimer parle encore.
Oui, je suis déjà depuis 1 an et demi dans l'équipe et... Je participe aux émissions. Là, j'ai été absente pendant 6 mois parce que je suis partie aussi à Wrocław, en Pologne, où j'ai rencontré Anya. Voilà.
D'accord. Merci. Et bien, donc, on va commencer l'émission avec le premier point qui sera consacré à l'impact des traditions et des religions. Alors, je voulais un peu savoir, est-ce qu'on est libre, aussi bien en Pologne qu'en Allemagne, de ses choix, ou est-ce que les intérêts de la famille ou de la communauté prennent le dessus sur les intérêts personnels. Je ne sais pas, Anya, si tu...
En Pologne, je pense qu'il n'y a pas quelque chose comme ça, parce que toutes les femmes sont libres à choix. Et la famille n'avait pas intérêt à mariage ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'en Pologne, il y a
90% de catholiques.
Et donc c'est très la religion. Il y a problème pour beaucoup de choses. On peut pas appeler à ça après, mais c'est la religion qui détermine un peu de choix. Donc c'est quelque chose comme ça.
La religion, donc, tu dis, qui détermine certains choix, mais quel genre de choix, par exemple?
Par exemple, ce n'est pas possible, très possible, on peut, oui, mais non très possible, habiter avec ton petit ami ou quelque chose comme ça.
Et, par exemple, du côté de l'Allemagne, est-ce que...
C'est plus ou moins la même chose. Dans ma génération, surtout, là, on peut vraiment choisir assez librement. Mais je veux dire, c'est vraiment... J'ai des copines qui sont moitié allemand, moitié autre culture. Et là, ça commence les difficultés. Parce que dès que... Ils sont grandis en Allemagne, mais ils viennent de Syrie, par exemple, d'Iran, tout ça. Ils sont en Allemagne, alors ils sont grandissent avec moi et mes copines et tout ça, allemandes. Alors ils connaissent notre modèle de vie qui est assez libre. C'est comme Anya raconte, c'est vraiment libre de religion, notre choix de partenaire normalement. Ça dépend de la famille. Mais pour eux, c'est différent parce qu'en fait, ils sont grandissent avec nous, mais quand même dans leur famille, il existe encore la culture origine très fort. Et par exemple, quand j'ai 2 copines qui sont une de Syrie, une de l'Iran, et là, c'est vraiment pas le choix libre. Là, les parents, comme ils sont vraiment dehors de leur pays, ils préfèrent qu'ils choisissent quelqu'un de leur culture, de leur religion même, et tout ça. Ça, je vois bien, il y a un grand conflit. Et aussi, il faut distinguer entre ma génération et les générations de mes parents ou de mes grands-parents. Là, je pense que c'était encore un peu de la classe sociale, pas par rapport à la religion, mais quand on choisit un petit peu plus, je pense, par rapport à la classe sociale. Et aussi, aujourd'hui, je vois une différence entre les villes en Allemagne et les petits villages. Parce que ma famille, mes grands-parents viennent d'un petit village. Et là, déjà, quand quelqu'un arrive, et son copain ou son petit ami ou sa petite amie n'est pas allemand et a un aspect vraiment pas allemand, un aspect par exemple africain ou arabe ou quelque chose. Là, c'est quand même, ça commence les vieux dans le village, c'est un peu comme, je sais pas, c'est comme une sorte de préjugé encore qui existe un petit peu ou quelque chose que peur de inconnu, quoi. Ça, je remarque. Mais dans les grandes villes, pas de problème. Et en général, en Allemagne, on est assez libre dans notre choix, oui.
Est-ce que vous pensez que cette liberté de choix est la même pour les filles ou pour les garçons? Ou est-ce que c'est plus difficile pour une fille ou c'est plus difficile pour un garçon?
Un choix que je veux dire aussi, c'est quelque chose que j'habite aussi à grande ville. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas très bien la situation à village, mais je suis sûre que ce n'est pas très ouvrir. Donc, il y a beaucoup de problèmes traditionnels. Si tu veux faire quelque chose pas très catholique, traditionnel, donc oui, à petit village, oui, c'est peut-être ce problème, mais en ville, il n'y a pas de problème comme ça. Et je pense qu'en village, c'est à 100% meilleur pour garçons, parce qu'ils sont très libres, ils peuvent boire alcool, fumer, et ce n'est pas un problème, mais si film faire quelque chose comme ça, c'est un problème tout le temps, parce que ce n'est pas même note pour lui. Donc,
les filles,
oui.
Sont mal vues, les filles sont mal vues.
Oui. Donc, c'est quelque chose comme ça, que garçons sont plus libres, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ce n'est pas quelque chose comme ça pour femmes et filles, oui.
En Allemagne, je vois vraiment pas une très grande différence entre garçons et filles, en fait, par rapport à ça. Je sais pas, on avait une grande vague de féminisme dans les années 60. C'était une deuxième vague avant la Deuxième Guerre mondiale. On avait déjà une vague de féminisme. Alors, je sais pas, c'est déjà nos parents, par exemple ma mère et toute sa génération qui se sont libérés un peu de cette je dois choisir l'homme que mes parents m'ont choisi. Ça a déjà commencé, mais même on a resté encore dans quelques, comment dire, restreints sociaux, peut-être. Mais je veux dire, aujourd'hui, on est vraiment, je ne vois pas une différence. J'ai par exemple des cousines qui sont plus jeunes que moi et vraiment, ils vont sortir, ils vont prendre d'alcool, ils vont choisir leur copain, ils vont changer le copain. Je ne sais pas, je vois, moi en Allemagne, je ne vois pas une grande différence par rapport au choix de partenaire et tout ça, de mari peut-être.
Et donc là, on a beaucoup parlé de mariage.
Mais j'ai une question, mais par exemple, s'il y a Phil qui est sous, qui boit beaucoup d'alcool, et il y a un garçon qui est sourd, c'est plus... les gens, si la différence...
Non, pas vraiment.
Non. Parce qu'en Pologne, oui. Non. C'est quelque chose comme ça, que la fille, c'est sa personne qui ne peut pas être sourde, quelque chose comme ça, non.
Non. C'est plus comme ça chez nous, non.
Et du coup, je voulais aussi savoir, dans cette continuité, est-ce que tout ce qui est célibat est aussi bien perçu? Ou justement, il faut quand même... L'important, c'est rencontrer quelqu'un ou si après...
Bon, c'est de nouveau un truc de génération, je pense un petit peu notre génération, ma génération. Moi, j'ai 29 ans. Alors là, on est assez libre parce qu'il y a tellement de modèles de vie, même célibataire ou mère-enfant ou père-enfant. Et il y a tellement de différents modèles que c'était très, très, très libre, je veux dire. Mais bon... c'est clair que dans la génération de même de mes parents et grands-parents, ils demandent quand même quand tu vas trouver un partenaire, quand tu vas te marier. Mais je veux dire, c'est pas si fort comme dans les autres cultures que je connais. J'ai connu aussi à Bruxelles quand on me demande déjà moi, mais quand vas-tu avoir des enfants, tout ça. Là, c'est plus fort. En Allemagne, non, mais quand même, c'est clair que c'est toujours un peu conservateur. Conservateur, ou cette modèle de vie, oui, famille, mère, parents, enfants, mais je veux dire, dans notre génération, non. Mm-hmm. Là, c'est tout possible, quoi, tout. Je vois pas, c'est pas mal vu non plus.
En Pologne aussi.
C'est comme ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, oui, maintenant, c'est quelque chose que. C'est un nouveau âge, oui, nouveau siècle.
Nouvelle époque,
ce n'est pas un problème pour beaucoup de personnes. Et aussi, par exemple, mes parents, ses amis acceptaient ça. Toutes les choses, ce n'est pas un problème. Avec mes grands-pères, grand-mères, oui, c'est un problème, mais ils se que c'est normal, que c'est quelque chose de nouveau, mais il doit accepter ça parce que c'est quelque chose comme ça. Si il n'accepte pas ça, c'est notre choix. Oui, c'est notre vie et il sait que c'est comme ça, donc il a accepté ça, mais ce n'est pas quelque chose comme ça qu'il dit « oui, c'est bien ». Faire quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas ça. Mais il sait, OK, c'est votre choix. C'est tout. Il n'y a pas de problème avec célibat, par exemple. C'est normal. Il n'y a pas quelque chose comme ça que quelqu'un dit, ouais, elle est célibat, peut-être elle est mauvaise ou quelque chose. Non, ce n'est pas quelque chose comme ça. C'est normal si quelqu'un. Quelque chose, oui.
Et même habiter seul, parce que c'est différent de rester longtemps chez ses parents que de vraiment dire maintenant je prends mon autonomie et j'habite seul, il n'y a plus de regard sur ce que je fais.
C'est normal qu'après les études, mm-hmm. Tous les gens doivent
déménager et commencer à vivre seul. Dès qu'il y a un revenu.
Et c'est aussi quelque chose comme ça que il y a je dois dire ça en polonais. Non, je m'aime tak, że do dużych miast przyjeżdżają ludzie, tak? I po prostu usamodzielniają się, wyprowadzają się z domu.
La Pologne est assez grande, il y a des villes, c'est dans les villes qu'il y a les études et les étudiants sont déjà habitués à vivre en colocation ou seuls. De par le fait qu'ils doivent venir tout seuls à la ville pour étudier, pour faire leurs études supérieures.
Et après, travail. Donc, c'est même. Si quelque chose, quelqu'un habite à François, par exemple, après études, il doit travailler, vivre seul. Oui, c'est ça.
Vous êtes bien sur Radio Panique 105.4 FM dans notre émission Elles en parlent encore. Pour ceux qui nous rejoignent, le thème abordé aujourd'hui concerne le statut des femmes et le féminisme à travers différentes cultures. Donc nous avons commencé l'émission avec l'impact des traditions pour maintenant parler de l'accès à la formation et au travail. Donc ma première question c'était de savoir aussi bien en Allemagne qu'en Pologne, est-ce que les femmes étaient cantonnées à un même type d'études où justement toutes les études étaient assez ouvertes. Elles avaient un accès à toutes les études ou pas?
Bon, en Allemagne, en principe, bien sûr, on a accès à toutes les études, mais je veux dire culturellement ou socialement, ou je ne sais pas, ça, c'est quand même, on remarque, et surtout dans les études universitaires, c'est les femmes font plutôt des sciences sociales, des langues, des choses comme ça. Et très rare des choses comme, comment on dit,
ingénieur
ou mathématiques ou physique. Ça vient encore, je pense, c'est pas parce que c'est socialement pas mal vu ou quelque chose comme ça, mais ça, c'est vraiment, c'est quand même encore dans les femmes même qu'ils choisissent comme ça. Quoi. Je pense vraiment pas que parce qu'il y a des restreintes sociales, c'est parce que, bon, parce que peut-être quand même on a des différents intérêts quelquefois. Mais je veux dire aussi, quand on ne parle pas des études universitaires, mais de formation, par exemple, on voit qu'il y a 50% de femmes, de jeunes femmes, qui prennent des trucs, des formations pour les professions très traditionnelles femmes, comme coiffeuse, comme infirmière, comme, comme on dit, dans les jardins d'enfants, éducatrice, dans les jardins d'enfants, des choses comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Mais sinon, on est très, très libre de choisir. Et voilà, c'est... Mais bon, il y a encore des différences, bien sûr. Mais ça, c'est pas un truc parce que je pense qu'il y a discrimination ou inégalité. C'est pas encore développé de femmes même qu'ils ont plus d'intérêt pour les mathématiques, des choses comme ça. C'est mon avis, ça, sur
moi,
ouais.
Moi, je voulais juste dire un petit mot par rapport à ça. C'est que c'est un peu la même situation qu'en Belgique aussi. Mais moi, je relis ça vraiment à l'éducation des enfants dans la petite enfance. Quand on voit les jouets qu'on met entre les mains des garçons et les jouets qu'on met entre les mains des filles, c'est sûr qu'on met entre les mains des garçons des jouets plus techniques. On va leur mettre des jeux de construction, on va leur mettre des voitures à monter, démonter, des choses comme ça. Et les petites filles, on va les contenter de leur donner des jeux d'imitation, de comment on prend soin des autres. On va leur donner des poupées à coiffer, des poupées à langer. On va leur le set de la parfaite nettoyeuse. Et je pense qu'on ne mesure pas l'impact que ça a sur le développement des enfants.
Oui, je pense que ça, c'est sûrement un point important. Justement, comme de ma propre expérience, moi, j'ai une sœur et mon père, il voulait toujours avoir aussi un garçon, quoi. Alors, quand on était petite, il nous a donné des trucs comme des voitures, des trucs à monter, vraiment des trucs de garçon, quoi. Vraiment beaucoup, beaucoup. Mais par exemple, ça m'a intéressée pas du tout. Et ça venait vraiment de moi. J'étais stimulée, on peut dire ça. Vraiment. Et ma sœur non plus. On voulait des poupées. On voulait. Et ça venait vraiment de nous, quoi. Parce que chez nous, c'est mon propre expérience que c'était vraiment comme ça que j'étais assez stimulée par rapport à des jouets des garçons. Et ça me disait rien, en fait. À moi. Alors, je pense que c'est peut-être un mélange. Voilà. Je sais pas.
Et pour la Pologne ?
Pour la Pologne, également, les femmes sont libres dans leur choix. On rencontre beaucoup de femmes dans tout ce qui est pédagogique, psychologie, sociologie, communication, mais aussi journalisme, chimie, pharmacologie, philologie. Et par contre, si c'est déjà 50% hommes et femmes dans les sciences politiques, économiques et l'architecture, ainsi que le management.
Il y a beaucoup de hommes, de garçons à Polytechnique, par exemple. Donc, toutes les choses techniques, informatiques, robotiques, automatiques, toutes les choses comme ça, c'est ce garçon. Mais ce n'est pas quelque chose comme ça qu'il n'y a pas fille, femme là-bas. Non, ce n'est pas comme ça. Mais c'est quelque chose comme ça qu'il y a 5 filles ou quelque chose... 5, 6. Il n'y a pas beaucoup. Mais un peu, oui.
Et je voulais aussi savoir, une fois l'arrivée des enfants, si ça devenait un frein pour le parcours professionnel de la femme. Et peut-être que ce n'est pas le cas aujourd'hui, actuellement, mais peut-être qu'il y a une génération précédente, c'était le cas. Et savoir un peu comment ça se présente de ce côté-là.
Oui, moi, je pense qu'il y a encore des grands problèmes par rapport à ça, sûrement surtout dans les professions de management, des professions un peu plus, comment on dit, comment on dit, bon, pas des professions, par exemple, quand on est secrétaire, quelque chose comme ça, c'est plus facile de prendre demi-temps, par exemple, de travailler moment demi-temps. C'est simplement plus facile. Il y a des études sur ça. Mais dès qu'on est dans le management, dans le métier d'économie en général, comme dans les métiers relations internationales, sciences politiques, quelque chose comme ça, là, ça devient vraiment difficile parce que là, on attend qu'on se donne 100% au job, au boulot. Et là, c'est difficile à prendre, par exemple, demi-temps. Et en même temps, et parallèle à ça, il n'existe pas assez de crèches. Alors, si une femme dit, bon, je veux faire la carrière, c'est pour moi, je peux m'arranger que mon enfant soit dans la crèche toute la journée. Et le père travaille aussi. On a un problème parce que d'abord, on ne peut pas prendre demi-temps et en plus, il n'y a pas assez de crèches et tout ça. En plus, les crèches de toute journée, quoi. Ça, c'est vraiment un grand problème qu'on discute beaucoup en Allemagne à ce moment-là avec le ministère pour les familles parce que c'est vraiment, ça, c'est une chose qui nous restreint de poursuivre un parcours professionnel comme des hommes. Ça, c'est vraiment. Et en plus, qu'est-ce que je vois que, par exemple, quand moi, je me présente pour des boulots de temps en temps, ça aussi, on ne me demande pas qu'est-ce que c'est pour la famille. Surtout dans mon âge, 29, on sait que moi, je suis mariée. Alors, ça devient un peu comme... C'est discriminatoire. On ne peut pas, même pas poser ça, mais on me pose et pour les enfants, tout ça. Parce que c'est quelquefois, ça m'est déjà arrivé. Et ça, c'est une grande... Ça va pas, quoi. Ça, c'est une grande discrimination. Et je pense là, on a beaucoup de problèmes encore qu'on soit égal aux hommes. Moi, je vois voilà, un grand problème.
Et on pose la même question à ton mari quand il cherche du travail?
Mais non, pas du tout. Non. Et oui, non, pas du tout. En plus, je pense que c'est un peu comme une femme, par exemple, ça c'est aussi un autre point important, quand une femme a un enfant, elle continue quand même à travailler plein temps si elle a la chance de pouvoir payer quelqu'un qui fait attention à l'enfant, tout ça. Ça c'est aussi un peu vu mal socialement. Comme, ah, pourquoi tu as fait des enfants que maintenant tu travailles toute la journée? Ça en plus, c'est un peu... L'homme, on ne dit pas ça parce que c'est... Ça, je vois encore beaucoup des inégalités. Ouais.
En Pologne, la situation est assez difficile de ce côté-là, puisqu'il y a 1,2 million d'enfants de moins de 3 ans, et ce qui est en constante augmentation. Puisqu'il y a la démographie qui augmente. Les crèches ne sont vraiment pas suffisantes. Il y a, je pense, 165, dans un article, il est écrit qu'il y a 165 crèches enregistrées. Il est question de l'augmenter de 200, ce qui ne sera quand même vraiment pas suffisant.
Ça, c'est encore pire qu'en Belgique. Et pourtant, on le sent. En Belgique, c'est très, très, très difficile.
Mais il y a aussi quelque chose comme le club pour bébés. Mais c'est privat, tout le temps. Et c'est quelque chose comme ça qu'ils devaient payer là-bas
800 à 1200 zloty. Ce qui équivaut à pratiquement un revenu entier, en fait, puisque les gens gagnent entre 1002 et 1005, et encore quand ils gagnent bien. Donc ça revient à payer son revenu uniquement pour laisser son enfant
donc,
en privé.
Donc c'est normal que s'il y a bébé, ça arrête pour la carrière de mère. C'est très, très normal parce qu'il n'y a pas d'argent pour la crèche ou ce club pour bébé. Aussi, il n'y a pas beaucoup d'argent pour le nana, gna gna.
La nounou.
Le nounou,
oui.
Le nounou. C'est quelque chose comme ça. Et ce n'est pas possible d'avoir le travail si quelqu'un quelqu'un est pregnant,
enceinte.
Ce n'est pas possible. Et aussi, ce n'est pas très légal, mais quelque chose comme ça, qui, que si la femme cherche le travail, l'employeur, demande de, est-ce qu'elle a les enfants, à quel âge. Parce que si c'est petit bébé, c'est normal qu'elle va, elle va avoir temps libre ou quelque chose comme ça. Donc c'est, ce n'est pas légal, mais il y a quelque chose comme ça. Et si elle est mariage, elle n'a pas les enfants, c'est sûr que l'homme avoir ce job, pas femme, parce qu'elle va avoir les enfants, et après elle veut le temps pour se
Le temps, le congé de maternité.
Et toutes les choses. Donc, ce n'est pas possible d'être jeune mariage et avoir le bon travail, c'est pas possible.
Ouais. Et je vois que les conséquences, c'est soit que tu laisses ton carrière tomber, ou soit tu n'as pas, simplement pas des enfants. Par exemple, je connais plein de femmes qui ont 40 ans déjà, et qui ont dit, bon, on a simplement raté parce qu'on a poursuivi la carrière, et c'est pas prévu, c'est pas convenable avec la carrière. Comme, je dis comme dans les professions, comme, je sais pas, de management, des choses comme ça, c'est vraiment pas possible, quoi. C'est bon, c'est possible toujours, mais c'est vraiment difficile, je veux dire. C'est là aussi le père, il joue un rôle un peu différent, important, quoi, qui aussi eux, ils commencent à prendre la responsabilité. Et là, il y a une petite tendance en Allemagne qui a de plus en plus de pères qui prennent le congé paternel, ouais.
C'est de plus en plus en vogue.
Oui, c'est en vogue, mais c'est pas encore en général, mais c'est de plus en plus qu'il y a des modèles que les pères prennent, ou qu'il y a vraiment très moderne, qu'ils disent, quand on a un couple, on dit qui gagne plus, c'est la femme qui gagne plus, le père prend. Oui, ça je connais pas beaucoup, mais quelques cas, et j'ai l'impression qu'il y a une petite tendance dans la société même, mais je trouve que c'est la politique qui doit donner des meilleurs cadres aussi, comme les crèches et tout ça. Et puis les entreprises aussi, c'est...
Et je me demandais le fait que si les deux personnes du couple travaillent et que justement il n'y ait pas assez de services en matière de garderie d'enfants, quelle est la solution si...
Normalement que la femme reste à la maison,
mais... Ça ou...
Oui, normalement ça, ou soit on a la chance qu'on a la famille autour, les grands-parents ou quoi, ou soit, comme j'ai dit, le truc moderne, que le père dise, bon, j'ai gagné moi, alors, mais voilà.
Il n'y a pas d'autre solution.
Aya me dit ici qu'en Pologne, il est de plus en plus courant que les hommes aient aussi la possibilité d'avoir un congé de paternité, surtout si l'enfant est malade.
Par exemple. Et aussi, qu'est-ce que tu dis, grands-parents, oui. C'était quelque chose comme ça en Pologne. Mais maintenant, c'est quelque chose, c'est un problème parce que les grandes-mères sont ces femmes qui sont de féminisme, de.
De la soixantaine.
Donc, elle ne veut pas être à la maison, être grand-mère. C'est pas possible. Elle veut voyage, beaucoup de choses comme ça. Elle dit non, c'est pas possible. Je ne veux pas rester maintenant encore avec les enfants.
Oui, ça c'est. Oui, c'est. Je vois ça. C'est bien que tu dises parce que c'est aussi un développement que bon, très moderne, quoi, que les grands-parents aussi ils commencent à exiger. Mais non, moi aussi, en tant que femme, je ne veux pas être... D'abord, j'étais femme, puis j'étais mère, puis maintenant je suis grand-mère. Allez, je veux aussi avoir ma liberté. Oui, c'est vrai.
Moi, je voulais poser la question aussi, si les femmes ou les maris, enfin, ça c'est, décident de ne pas travailler et de garder les enfants, qu'est-ce qu'il y a de prévu au niveau de la sécurité sociale? Parce que On sait que, par exemple, en Belgique, souvent, quand les femmes ne travaillent pas, elles ne prennent pas toujours la sécurité de dire, ben voilà, je vais rester au chômage ou de prendre un congé parental. Parfois, simplement, elles arrêtent de travailler et que ça, un des éléments qui les pousse vers la précarité, surtout si à un moment donné il y a un divorce ou quelque chose comme ça. Elles ont moins de pension que les hommes, elles ont moins le droit à un chômage complet. Donc, souvent, c'est source de grande précarité. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu comme ça en Pologne ou en Allemagne? Quand quelqu'un arrête de travailler, pour les enfants, une espèce de sécurité financière après.
Quelque chose comme des allocations familiales ou encore autre chose. Quel serait l'équivalent en Belgique?
Mais quelque chose qui prévoit que si tu mets ta carrière de côté pour éduquer les enfants, que quelque part tu ne perds pas tes droits au chômage ou à la pension. C'est surtout ça.
Moi, je ne connais pas. Alors, je pense que ça existe. Pas, mais je suis pas 100% sûre que bon, normalement on fait le congé maternité, puis on a encore quelques années de protection qu'on peut retourner dans la profession, qu'on doit garder libre, je pense 3 années ou quelque chose comme ça. Mais bon, pendant ce temps, on gagne pas. Alors là, on a encore le droit de pouvoir retourner dans son boulot. Mais puis, je sais pas, je pense pour le chômage, si on dit qu'on est au chômage, il faut faire des obligations que, comme se présenter tout le temps, et quand on doit éduquer l'enfant parce qu'on doit rester à la maison, parce qu'il n'y a pas de crèche ou quoi. On peut pas être en chômage, mais je pense pas qu'il y a une sécurité comme ça. Je suis pas à 100% sûre. Ça.
Ici, Agnès me dit que le congé de maternité, pendant les 3 premiers mois, on touche 75% et après 50% du salaire. Jusqu'à 3 ans maximum, après quoi on est au chômage, mais sans revenu.
Oui, elle doit revenir à travail, mais si elle ne fait pas ça, elle a chômage.
Mais elle n'a pas d'allocation
Non, il n'y a pas sécurité après ces trois années.
Et l'école commence à quel âge chez vous, en Pologne?
Ça, justement, je voulais le dire là tantôt. L'école primaire commence à 5-6 ans, donc un an plus tard qu'en Belgique.
Et oui, donc, ça veut dire qu'il y a un an ou deux où c'est très difficile, alors?
Oui, en Allemagne aussi, oui. À 5-6 ans, on commence.
Ouais. Mais il n'y a rien avant? Il n'y a pas de maternelle avant?
Il est le jardin d'enfants avant, simplement. Et même là, par exemple, c'est quelquefois difficile d'avoir une place. Par exemple, moi, je suis déménagée avec mes parents. Et j'étais seulement jusqu'à 3 ans au jardin d'enfants. Et puis, on est déménagé et je n'ai plus reçu une place. Alors, ma mère m'a gardée à la maison. Pendant 2 années, jusqu'à ce que je suis rentrée, même le jardin, je veux dire, les crèches, il n'a pas assez. Même dans le jardin d'enfants, comme dans mon cas, on est déménagé. Et là, je n'ai plus rentré, il n'y avait plus de place.
Mm-hmm. Et ici, pardon, excusez-moi. Mais Anya me dit aussi, en Pologne, la crèche, donc au-dessus de 3 ans, entre 3 ans et la première primaire, c'est obligatoire.
Ah bon, alors ça va.
C'est quelque chose comme ça. S'il y a beaucoup de problèmes avec enfants, par exemple malades ou quelque chose comme ça, c'est not très, très obligatoire, mais c'est quelque chose que 60% de
d'enfants. 60% d'enfants.
Avoir ce primaire.
On doit cette crèche, en fait, qui est... je pense qu'on nomme crèche ce qui est entre 3 et 6 ans et en dessous de 3 ans.
Crèche est do. Żłobek jest do trzeciego roku życia, przedszkole jest po trzecim roku życia.
Hélène. Ben oui, donc j'écoutais parce que je me disais que c'était. Donc nous, la crèche est en dessous de 3 ans et école maternelle entre 3 et 6 ans.
Voilà, maternelle. Je voulais dire maternelle en fait. Excusez-moi.
Maternelle, c'est pratiquement obligatoire.
Chez nous, ce n'est pas du tout obligatoire, mais par contre, il y a beaucoup plus que 60% qui y vont. Chez nous, on est à 85%, 90% d'enfants qui vont en maternelle.
Il y a beaucoup parce que... Parce qu'après, le dernier an à ce maternelle, c'est éducation. Normal éducation avec le nombre, chiffres, lettres,
il y a déjà des apprentissages.
Donc, c'est à 5 ans pour les enfants. C'est très important, oui.
Oui, alors, beaucoup de questions sur ce thème et pas beaucoup de temps devant nous. Donc, avant de passer à un autre thème, on va juste faire une petite pause, une autre pause musicale et on revient tout de suite après. Merci. Donc, nous reprenons notre émission sur Radio Panique 105.4 FM. Elles en parlent encore, avec pour sujet le statut des femmes et le féminisme à travers différentes cultures. Donc là, j'aimerais plus que cette partie soit consacrée au mouvement féministe au sein aussi bien de l'Allemagne que de la Pologne, pour avoir une idée aussi de ce qui se passe en dehors de la Belgique et de la manière dont ils se présentent. Donc je vous écoute.
Bon, en Allemagne, je veux dire, c'est assez intéressant un peu, si on peut voir un peu l'histoire de féminisme aussi. C'est assez intéressant parce que déjà dans le 19e siècle, il y avait une sorte de féminisme dans les villes étudiantes, Leipzig et tout ça, qu'on a, on a exigé une certaine égalité par rapport au pouvoir et voter et tout ça. Mais bon, c'était pas encore possible à l'époque-là. Puis il y avait la Première Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, on avait, à partir de 1918, on avait le droit de voter. Et c'est beaucoup plus tôt que, par exemple, la France ou l'Italie. C'est alors là, on a commencé à voter. Mais puis, il y avait quand même assez de femmes qui ont commencé à se libérer un peu. Il y avait une époque dans les années 20 qu'ils ont porté cheveux courts, tout ça, qui avant, et des jupes très courtes, le mini, tout ça, ça commençait un peu à se libérer par rapport à ça. Puis, il y avait la Deuxième Guerre mondiale, et là, il y avait vraiment, on a mis une image sur la femme, on a fait un idéal de femme qui rentrait dans le système malade de Hitler, qui est la femme est une bonne mère et la femme. Alors là, c'était pas du tout le féminisme. On était mis dans une forme, je veux dire. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, on avait vraiment besoin de femmes pour reconstruire l'Allemagne. Et ça commençait à bouger beaucoup, je pense. Et puis, on était l'Allemagne séparée. Et là, il y avait un développement vraiment assez différent dans les deux parties. En fait, dans la partie démocratique d'Allemagne, de l'Allemagne de l'Est, c'était plutôt que les femmes ont commencé très vite à être égales par rapport au travail, tout ça, parce que c'était le système qui a prévu qu'ils doivent travailler et que c'est normal qu'ils ne gardent pas des enfants, par exemple, et qu'ils doivent travailler. Pendant qu'à l'Ouest, c'était beaucoup plus libre comme système. Et là, les femmes ont commencé, surtout dans les années 60, de se libérer beaucoup, 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 de protester, de se libérer. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, on a des prominents comme Alice Schwarzer, qui ce sont des féministes très, très importants. Et aujourd'hui, on lutte beaucoup pour des trucs qu'on vient de discuter, comme d'égalité dans le domaine de travail, surtout des choses comme ça. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça se présente aujourd'hui. Il y a des mouvements et je pense qu'on est déjà bien avancé. Voilà.
Et du côté de la Pologne, qu'est-ce qu'il en est ?
En Pologne, il y a eu 7 grandes phases du féminisme, dont la première a commencé en 1914. Et puis la dernière, à partir de 1987, après le communisme. Et durant ces différentes étapes, phases, il y avait 4 grandes idéologies défendues. La première, c'était l'éducation, donc le droit à l'éducation. Ensuite, le droit, bien sûr, aux élections.
La politique.
D'un point de vue politique. Et à la politique aussi, la participation à la vie politique. La troisième, évidemment,
sexuelle éducation. Donc, pourquoi ils sont les enfants et toutes les choses comme ça faire. Et les femmes veulent cette éducation à l'école.
Les moyens anticonception aussi. Oui. L'avortement. Et puis après, l'égalité. L'égalité à tous les niveaux.
Oui, à travail, à politique, économie, ce que la femme veut être seule d'argent.
Égalité de salaire. Et actuellement, un des droits que les femmes, pour lesquelles les femmes se battent, c'est au niveau justement des carrières dont on a parlé, puisqu'actuellement, malheureusement encore, les droits, on doit choisir entre le droit de la femme ou le droit de l'enfant.
Parce que s'il y a beaucoup de droits de femmes, c'est quelque chose comme ça qu'on prend le temps pour les enfants. Donc on prend le droit pour les enfants. Mais si on donnait beaucoup de droits pour les enfants, on prend ce droit
sur ces droits personnels de carrière ou de perspective de travail.
Donc c'est ça, et aussi le... Ça,
Comme les jeunes femmes, comme Anya a dit la tantôt aussi, les mères et les jeunes femmes n'auront jamais, mais vraiment jamais, de job dans le management ou...
Après, c'est quelque chose qu'elle peut avancer jusqu'à de pewnego stopnia.
Elles peuvent avoir... Elles peuvent monter dans le niveau de fonction jusqu'à un certain niveau.
Et après, non, parce que c'est comme le... je connais Sophie, tu peux dire.
On appelle ça en français le plafond de verre.
Plafond de verre, quoi.
Oui, c'est voilà. Comme ça.
C'est un plafond qu'on ne voit pas, mais qui fait que les femmes n'arrivent pas à dépasser.
Oui, c'est comme quelque chose comme ça. Mais c'est possible aussi. Mais c'est pour femmes qui étaient les enfants jeunes, par exemple, 18h, 20, 22. Et maintenant, ces enfants sont...
Grandis,
vont 20 ans.
En soi adultes, commencent à travailler ou à étudier. Alors, à ce moment-là, c'est possible, mais il faut vraiment qu'ils aient eu les enfants à 18 ans ou à 20 ans, vraiment très très jeunes, pour pouvoir avoir une carrière 35, 40 ans.
Parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles sont 4, 2, 4, quelque chose comme ça. Donc, ils sont jeunes à travail, mais il n'y a pas de problème avec les enfants ou quelque chose comme ça. Donc, elles peuvent faire crash ces plafonds, vers
le plafond. Ah oui, elles peuvent casser le plafond et monter dans la... hiérarchie.
Et je voulais savoir, est-ce que vous, quand vous habitiez en Pologne ou en Allemagne, est-ce que vous faisiez partie d'un mouvement féministe où elles en parlent encore et votre première expérience
Oui, pour là-dedans. Moi, c'est mon première expérience. J'étais toujours engagée volontairement dans les droits de l'homme, des choses comme ça en général, mais jamais spécialement pour les femmes. Et en fait, je pense que mon arrivée en Belgique m'a ouverte encore. C'était pas seulement la Belgique, mais aussi le domaine où je travaille, dans le domaine international de l'Union européenne, qui m'a ouverte un petit peu les yeux et aussi tous les cultures. C'est très international ici à Bruxelles quand même. Et là, j'ai vu tellement de différents modes de vie. J'ai des copines qui ont différentes cultures qui souffrent quand même encore des inégalités beaucoup plus fortes que mes copines en Allemagne. Alors, et en plus, moi, j'ai vu dans le domaine de travail, depuis que je travaille, que j'ai vu encore plus d'injustices et que ça commençait à me inquiéter intérieurement. Et là, j'ai rencontré Vie Féminine. Pour ça, c'était ça. Il fallait pour moi un clic pour vouloir ou pour me mettre à ça. Mais c'était plus tard, c'était pas en Allemagne.
Je n'ai pas d'expérience comme ça aussi. Donc...
Ok. Et
Marta, tu as fait l'aller-retour vers la Pologne et puis quelques mois en Pologne, puis retour ici. L'expérience comme ça, ça t'a fait réfléchir à certaines choses ou...
Ça a changé certainement mon regard, mais là-bas, je n'ai pas participé non plus à des manifestations. Je n'ai pas été dans un mouvement ni quoi que ce soit, donc...
Mais juste le mode de vie, aussi bien, comme tu as toujours vécu en Belgique, et le fait d'arriver, c'est 5-6 mois,
oui.
En Pologne, est-ce que, justement, t'as été confrontée fortement à un autre mode de vie, ou pas tant que ça, finalement?
Mais j'étais aussi fort baignée dans un milieu étudiant, puisque j'habitais avec des étudiants dans un grand internat, Et je rencontrais des étudiants à mon école, donc c'est différent, quoi.
Mais c'est quelque chose comme ça que, aussi, féminisme en Pologne, c'est ça que toutes les femmes sont très... Zadbanen?
Soignées.
Donc, c'est quelque chose que... Elle présentait que ces argent qu'elle a... Elle peut faire avec ses argent tout ce qu'elle veut. Donc, elle peut maquiller, avoir beaucoup de cool vêtements, oui. Donc, toutes les femmes sont très, 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 très chic avec, se maquiller toujours avec beaucoup de vêtements très nouveaux, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qu'on manifeste. Donc, ce n'est pas comme ça que, oh non, je ne peux pas l'acheter parce que je dois acheter quelque chose pour mon mari, mes enfants. Non, il n'y a pas quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'on...
C'est une manière de manifester le féminisme. Oui.
Ouais. Et aussi le droit à tout le place. Donc, il n'y a pas quelque chose comme ça que, par exemple, expedient.
Le vendeur.
Vendeur est plus mignon pour garçon ou quelque chose. Il n'y a pas la différence. Et c'est les femmes qui boivent beaucoup de café, par exemple. Et c'est les femmes qui, tout le temps, achètent le gazette presse.
Le presse, oui.
Le presse. Ils sont à tout le magasin avec le laptop, quelque chose comme ça. C'est les femmes. Et il y a beaucoup de hommes qui sont à normal magasin comme Carrefour et faire le bon affaire,
des achats,
les achats pour la maison, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'avaient pas de temps pour ça, par exemple, parce qu'elles boivent café. Mais c'est blague.
Mais alors, ce que tu dis, c'est finalement que quand les femmes arrivent à travailler, donc on a vu, c'est pas toujours facile, surtout quand il y a des enfants, alors du coup, ça leur donne une liberté que d'autres femmes n'ont peut-être pas. C'est ça. Si tu as de l'argent... Tu peux acheter ce que tu veux, tu peux te faire jolie, tu peux te promener, comme tu disais, avec ton laptop parce que tu as une vie active. Ça, c'est possible.
Tu parles de toutes les femmes qui gagnent bien leur vie ou est-ce que tu parles des femmes qui se veulent se montrer féministes?
C'est quelque chose comme ça que toutes les femmes, mais spécialement féminisme.
Surtout les féministes.
Oui, c'est... No, że wszystkie kobiety są zadbane, ale widać, które są
féministes. On voit lesquelles sont féministes d'après ces signes que Kania a annoncé.
One są jeszcze bardziej charakterystycznie zadbane. Po prostu widać, że
są le font d'une manière caractéristique vraiment vraiment très soignée d'elle et très centrée sur elle-même en fait, dans la manière de se comporter de ce qu'on vient de dire en fait.
Et j'ai un peu une dernière question avant de clore l'émission. C'est à votre arrivée ici en Belgique, qu'est-ce que vous avez été Est-ce que votre vision de femme a changé ou pas? Est-ce que vous avez vraiment vu des différences ou
Je n'ai vu de différence. C'est quelque chose comme ça qu'en Pologne, nous ne sommes pas très développement à droit. Donc, c'est quelque chose comme ça qu'on peut, à chaque jour, ressentir ce féminisme et ce que toutes les femmes sont très, je fais demain,
conscientes.
Très conscientes. C'est quelque chose que tu peux le voir. Mais ici, il n'y a pas quelque chose comme ça parce que c'est plus stable.
Mm-hmm. C'est plus stable, non, et c'est plus... Donc les droits sont plus généralisés.
Oui, c'est calme ici. Et en Pologne, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de...
Militantisme.
Oui.
Oui. Ouais. En Allemagne, je ne sais pas, entre l'Allemagne et la Belgique, je pense qu'il n'y a pas tellement de différence par rapport au féminisme ou aux droits de femmes. Je n'ai pas vu personnellement. Qu'est-ce qui m'a rendu très content qu'on a maintenant une chancelière en Allemagne et qu'on a une ministère de famille qu'elle a 7 ou 8 enfants, elle travaille vraiment beaucoup et tout ça. Bon, mais ça, c'est une chose que, bon, mais par rapport à la question, non, je pense pas que Belgique-Allemagne m'a fait une différence, mais surtout de nouveau mon milieu. Parce que mon milieu où je travaille, je vous dis qu'il y a beaucoup d'injustices et inégalités et discriminations que je vois encore. Mais en même temps, je vois plein de femmes qui sont dans mon âge, un petit plus âgées et tout ça, qui sont tellement, c'est libérées tellement, ils viennent de tous les pays, 27 pays membres de l'Union européenne. Et alors, ils sont tous, ils veulent faire la carrière, ils veulent avoir des enfants, ils veulent se déterminer, eux, ils veulent, par exemple, pas dire, ah, mon homme ou mon copain, il a un boulot là-bas, mais moi, j'ai une offre là-bas, je veux pas renoncer à faire ça. Ou, il a tellement de... Et ça m'a donné aussi un peu, petit peu ça, cette... que moi, je par exemple, mes copines qui vivent en Allemagne, ils sont aussi très, très libres, très confiante en elle, mais quand même, c'est plutôt quand même cette rôle de vie de parents que je sais pas, c'est pas encore tellement comme ici dans le milieu où je travaille, où il y a tellement de femmes qui veulent vraiment bouger et arriver et faire une carrière et se libérer, voyager et pas vivre dans le modèle qu'il avait avant forcément. C'est ça qui, mais c'est pas une différence entre les deux pays peut-être spécialement.
Ben, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si l'émission vous interpelle et que vous avez des questions ou que vous voulez en savoir plus sur Vie Féminine, n'hésitez pas à visiter le site internet www.viefeminine.be ou pour celles qui n'ont pas internet, à téléphoner à Vie Féminine Bruxelles au 02 513 69 00. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook sous le groupe d'Elles en parlent encore. Merci à Zoé et Guillaume pour la technique. Et merci à Martha, Anya, Christiane et Hélène pour cette émission. Nous vous donnons dès lors rendez-vous le samedi 19 février à 11h pour une nouvelle émission d'Elles en parlent encore sur Radio Panique 105.4 FM. Le thème sera les jeunes femmes féministes.